Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 407 et on voulait reprendre un sujet qui passionne la formation, qui est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle dans le monde et le monde de la formation, avec deux angles qui sont particuliers. Est-ce qu'il s'agit de former à l'intelligence artificielle ou est-ce qu'il s'agit de changer les formes des résultats, c'est-à-dire que les métiers changent et finalement l'IA change la façon dont le monde évolue. Et donc pour cela, il fallait prendre quelqu'un qui s'y connaisse depuis longtemps, 2018 je crois de mémoire, donc avant la naissance de ChatGPT, pour ceux qui savent, dans ces cas-là, c'est Camilo Rodriguez. Bonjour Camilo.
Bonjour Stéphane, merci pour l'invitation.
Eh bien, Camilo Rodriguez est un expert de l'IA, comme je l'ai dit précédemment. On rentre directement dans le sujet. Qu'est-ce qui change vraiment en formation avec l'IA?
Alors, une très bonne question. L'intelligence artificielle, je vais parler intelligence artificielle générative, ce qui est à la mode aujourd'hui, parce qu'il faut quand
Bien
même le
sûr.
dire. L'intelligence artificielle, c'est pas que l'intelligence artificielle générative, mais ce qui est à la mode aujourd'hui. C'est ChatGPT, les agents, toutes les agents conversationnels. Du coup, je pense que ta question est plutôt par rapport à ça. Qu'est-ce que ça change dans la formation? Ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas une coïncidence. La première fois que le monde entier a entendu parler des ChatGPT, c'était le premier logiciel qui s'est fait connaître dans le monde des modèles de langage, c'était grâce à la triche aux États-Unis. C'est-à-dire que dans les écoles aux États-Unis, les profs, ils demandaient des essais, ils demandaient aux étudiants d'écrire leurs pensées par rapport à la guerre civile, du point de vue des, je sais pas, Emmanuel Kant, j'en sais rien. Et ils voyaient que les étudiants, ils répondaient et ils produisaient cet essai en moins d'une journée, et que c'était très bien écrit, et que c'était hyper pertinent. Et du coup, tout d'un coup, les enseignants, ils ont l'impression qu'ils sont affaire à des génies littéraires, parce qu'ils sont capables de produire des choses qui, avant, ça aurait pris beaucoup, beaucoup de temps, et aujourd'hui, ils sont capables de faire ça en un clin d'œil. Alors, évidemment, la triche a été découverte. Évidemment, ce n'est pas les étudiants qui faisaient ça, c'était ChatGPT. Du coup, tout le monde a crié au scandale. Et tout ça, c'était avant que, justement, que ChatGPT devienne le phénomène mondial qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, c'est l'un des premiers changements. Du coup, c'est une interpellation de la part des profs, de se dire, on fait des devoirs, on demande aux étudiants de rédiger du texte, de faire des choses. Et les étudiants, ils font ça à l'aide des IA conversationnelles. Ils les font mieux, ils les font plus rapides, les résultats, ils sont bien meilleurs. Mais effectivement, quand on est enseignant, l'important, ce n'est pas l'essai en lui-même. L'important, c'est tous les processus qu'il y a derrière. L'important, c'est qu'est-ce que la personne, elle a, comment elle a réfléchi, tout ce qu'elle a appris. Finalement, c'est pas la production de cet essai, la production de ces essais littéraires, c'est pas la fin. C'est un moyen pour y arriver. Du coup, effectivement, l'intelligence artificielle générative, ça pose des questions parce qu'il faut que les formateurs, ils repensent à leur technique d'apprentissage. Ça ne suffit plus aujourd'hui de faire des QCM parce qu'aujourd'hui même, des QCM, on peut répondre avec de l'IA générative. Du coup, en fait, il faut vraiment challenger ses propres méthodes. Il faut vraiment les mettre à jour. Ce qui peut être difficile pour certains, parce qu'il y a des profs qui enseignent en utilisant les mêmes méthodes pédagogiques depuis 40 ans, et qui aujourd'hui, on leur dit, en fait, il faut changer tout ça. Et il y en a beaucoup qui sont réticents au changement.
Tu trouves qu'aujourd'hui, tout ce qui est l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ont enclenché cette mutation?
Je ne pense pas, non. Je pense que, en tout cas, de les voir, de parler, parce que je suis avec les marchés, je forme à l'IA, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont encore complètement perdus, qui se posent des questions, qui ne savent pas par où commencer, et du coup, qui ne savent pas, qui sont un peu. On a aussi, dans l'éducation nationale, les profs, ils ont certaines libertés pédagogiques de comment enseigner les choses. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui sont imposées. C'est-à-dire que dans l'éducation nationale, on impose les bacs. C'est une suite des questions, et point barre, c'est comme ça. Il faut faire un essai, il faut rédiger des textes. Du coup, en fait, il y a des choses, en tant que prof, je peux challenger, je peux mettre à jour mes méthodes pédagogiques. Maintenant, l'éducation nationale, elle est assez rigide. Et en France, on est vieille école et on a une façon d'enseigner, une façon qui n'a pas vraiment beaucoup évolué depuis des années. Et je pense que ces modèles-là, ils sont à revoir. Il faut les revoir complètement.
Est-ce que tu dirais, comme Laurent Alexandre, arrêtez de faire des études parce que finalement, ce qu'on vous enseigne, c'est dépassé. et finalement, avec l'IA et une autre pédagogie, devenez entrepreneur de votre vie, quoi.
Alors, je ne pense pas qu'il faut arrêter d'apprendre. Je pense que l'apprentissage, c'est un processus continu
Alors, il
qu'on
disait pas
fait.
d'apprendre, il disait de faire des études.
Alors, bon, il faudrait voir quelle est la différence entre faire des études et apprendre. Je ne sais pas si les modèles, je ne pense pas que je suis la personne la plus adaptée à dire s'il faut repenser les modèles où on va, après l'école, s'intéresser à un métier, que ces métiers, c'est vrai que 5 ans à étudier un métier qui risque de changer avant même que je finisse les études, bah c'est vrai que c'est pas, ce n'est plus très séduisant. Les étudiants ne sont plus trop envieux. Ils se rendent compte que voilà, moi-même, j'ai fait des études de marketing, de commerce, et quand j'ai étudié ça il y a 25, il y a 30 ans, bah aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, on est en train de faire les marketing digital, ça n'existait pas quand j'ai fait mes études. Je pense que tous les métiers, ils changent, tous les métiers, ils s'évoluent. Alors maintenant, ces modèles des écoles rigides, des 4 et 5 ans sur des cursus qui n'évoluent pas et qui ne se remettent pas à jour année après année, ça, je pense qu'il faut réévaluer, certainement. Ouais.
Et tu aurais des pistes d'amélioration?
Alors, je pense que il faut que ça commence par la compréhension de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire avec ces systèmes, qu'est-ce qu'on a envie d'enseigner. Je pense que les plus importants derrière un enseignement, c'est pas l'enseignement pour en soi qu'on veut. Quand un étudiant, il va aller dans une école, qu'il s'inscrit, ça répond à un besoin plus profond de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. On ne fait pas des études pour le plaisir de faire des études. On fait des études parce que on se projette dans un poste, on se projette dans l'imaginaire. C'est la question, la fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas devenir grand? Sauf que c'est une question à laquelle rares sont les personnes qui connaissent la réponse à ça. Ils sont rares les personnes qui, depuis petit, ils se disent, moi, je veux être boulanger comme mon père.
Bien sûr.
La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que ces modèles aujourd'hui de se dire, je vais étudier pendant 5 ans pour faire un truc, que dans 5 ans, ces trucs, peut-être que ce n'est plus à jour, ou peut-être que ça a vraiment beaucoup changé. Bah oui, il faut les repenser. Il faut les repenser. Alors, peut-être qu'est-ce que c'est des mini-apprentissages plus courts? Est-ce qu'il faut alterner pratique avec stage, avec alternance et se former tous les temps? Je pense que ce sont vraiment des réflexions à haut niveau qu'il faut certainement avoir au niveau du ministère, mais aussi chacun d'entre nous, on peut le savoir. Chacun, on n'a pas besoin d'attendre que les ministères décident des choses pour nous-mêmes, nous remettre en question, nous poser et surtout. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes, s'il y a des jeunes qui écoutent ces podcasts, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les réponses avant de se lancer. Ça, personne ne le sait. Si vous vous posez des questions, vous ne savez pas ce que vous voulez devenir quand vous allez être très grand. La bonne nouvelle, c'est que rares sont les personnes qui le savent. Du coup, vous n'êtes pas seul.
Exactement. Et donc, on peut faire communauté. Alors, justement, c'est aussi cette dimension statutaire que souvent on cherche dans les études. Et ça pose un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les diplômes ne jouent plus leur rôle, puisqu'il y a beaucoup trop de diplômés par rapport aux postes qui sont équivalents. Ce qui fait qu'en fait, il y a un déclassement. Et donc, il y a une vraie réflexion sociétale qui se fait. Et tu as complètement raison là-dessus. Donc, il se passe des choses. Et donc, c'est intéressant, puisqu'il va y avoir une élection présidentielle bientôt. Ça sera l'occasion aussi de rediscuter de ces sujets. Souvent, c'est le moment où les gens ont des idées. Bon, donc, et pareil, chacun choisisse, parce qu'on est dans la démocratie. Si on revient là-dessus sur l'entreprise, qu'est-ce que l'IA change dans l'entreprise quand on sait aujourd'hui qu'à peu près 9% des entreprises ont intégré l'IA dans leur process? Donc, le prennent pas à la marge, mais seulement 9%, ce qui est à peu près la moyenne européenne. Alors, bien sûr, c'est très en deçà des Chinois et des Américains, mais 9% des Français, des entreprises françaises, ont intégré l'IA. Tu dis, on est mauvais ou tout est à faire?
Je pense que ni l'un ni l'autre. Je pense que la réponse, c'est étant des gris, comme dans la vie, c'est ni noir ni blanc. Je vois un peu les deux extrêmes, c'est lesquels? Du coup, d'un côté, il y a l'entreprise qui s'est dit. Les patrons, il est amoureux de l'IA parce qu'il a participé en conférence, qu'on lui a ouvert les yeux, qu'on lui a montré deux tours de magie et il s'est dit, voilà, du point de vue d'un patron, j'ai envie de vendre plus en payant moins mes employés et du coup, c'est les rêves de tous les patrons. Du coup, il a
Ouais.
envie de faire ça, il a envie de partager en plus cette joie qui est partageable ou pas avec les employés parce que l'employé, lui, il veut garder son travail. Du coup, d'un côté, il y a les patrons qui ont envie de tout automatiser, tout faire et qui se disent je vais tout faire avec l'IA. Ce qui n'est pas forcément vrai non plus, ça c'est impossible. De l'autre côté, il y a les gens, parce que l'IA, surtout l'IA générative, ça comporte surtout beaucoup de risques des pertes de données, des données confidentielles. Quand on va taper quelque chose sur ChatGPT, sur Claude, sur Mistral, peu importe les logiciels, dès que c'est un logiciel cloud, on est en train d'envoyer ses secrets, on est en train d'envoyer ses données à des ingénieurs. outre-Atlantique, ou peu importe s'ils sont en France, mais c'est des sociétés qui ne sont pas ici. Et du coup, ça va être la même réflexion qu'on a eue avec les réseaux sociaux. Ça a commencé gentil, on partageait des photos, jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'en fait, on était devenu un produit, et tout ça s'est retourné contre nous. Du coup, je pense que du coup, de l'autre côté de la balance, justement, il y a les gens qui veulent tout automatiser. De l'autre côté de la balance, il y a les sociétés qui sont trop dans la peur, et du coup, en fait, ils bloquent. Ils bloquent, ils bloquent, ils bloquent. Et on ne veut pas de ça, on ne veut pas d'IA, on ne veut pas des logiciels, on ne veut pas des services cloud. Et on bloque, on bloque, on bloque. Et ça, ce n'est pas non plus la bonne réponse parce que les gens, les employés vont toujours trouver des solutions de contournement. Et alors, moi, j'ai vu plein de sociétés dans lesquelles on va bloquer des sites, on va bloquer des URL, on va interdire des choses. Les employés, ils vont quand même les utiliser dans leur ordinateur personnel, à la maison. Et ce sont des outils dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. C'est vraiment des outils qui augmentent la productivité, qui permettent de travailler mieux. Du coup, la réponse, ce n'est pas on va tout automatiser maintenant, demain, il y aura une société avec zéro employé. Ce n'est pas non plus il faut tout bloquer, il ne faut pas utiliser l'IA. La réponse, elle est au milieu. Elle part au milieu. Il faut utiliser, oui, mais de façon objective, de façon avisée, en connaissance des causes, de qu'est-ce qu'il y a derrière ces systèmes. Comment ils fonctionnent, quelles sont leurs limites, quels sont les potentiels, quelles sont les précautions qu'il faut avoir, qu'est-ce que c'est qu'une hallucination, comment la détecter, pourquoi ces hallucinations existent. Et du coup, c'est vraiment les rôles, et ce que je fais, c'est que je forme à ces sujets-là, je forme à ces questions-là.
Alors, évidemment, tu dis il vaut mieux savoir quels sont les dangers, mais vu que l'IA est toujours en train de bouger, elle est toujours en train d'évoluer, finalement, on ne sait pas où on va, et donc on ne se connaît pas bien les limites et le potentiel. Bon, hier, on parlait des LLM, maintenant, on parle des LAM, donc des agents qui agissent en dehors de l'utilisateur. Après, on parle encore d'autres choses. Finalement, on ne sait pas trop où on va, mais on court un peu sans regarder, quoi. Donc, comment
Alors,
est-ce
les
qu'on s'y
gens,
retrouve?
alors c'est normal d'avoir l'impression que ça change, et vraiment ça change tous les temps. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, moi, ce que j'apporte avec mes formations, c'est un point de vue, du point de vue de l'ingénieur. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a derrière les tours de magie? Aujourd'hui, on est en avril, les 20 avril 2026. Au moment de l'enregistrement de ces podcasts, tout le monde est en train de se poser là. On regarde Paperclip, OpenClaw, on regarde des trucs et du coup, on a l'impression que c'est des logiciels qui font des trucs. Mais en fait, ça existe déjà. Ça s'appelle des automatisations. On peut déjà connecter des logiciels qui connectent, qui envoient des emails à notre place. On peut déjà connecter des emails et les piloter. Une des choses que j'ai fait en formation pour des profils qui ont besoin, qui ont envie de les faire,
Non,
on va
mais
faire ça.
la grande nouveauté, c'est pas qu'on puisse le faire. On sait le faire depuis la naissance de l'informatique. Et même avant l'informatique, d'ailleurs, avec la mécanique, on faisait la même chose. La grande nouveauté, c'est que maintenant, tout le monde peut le faire. Et donc, quand moi, je suis un collaborateur dans l'entreprise, je peux avoir accès à l'IA, je peux avoir, c'est un peu technique, mais il faut rentrer dedans. Mais même quelqu'un qui est un peu passionné, qui y va, bah, finalement, peut avoir des LAM dans ces cas-là. Et moi, petit collaborateur, je suis peut-être plus compétent et performant que le chef. Et c'est ça réinterroge tout. C'est ça qui fait peur.
Alors, il n'y a pas, encore une fois, ce n'est pas noir ni blanc. Un problème que personne parle de ces fameux agents IA ou autonomes, comme on peut les appeler, ces outils qui sont connectés, ces IA conversationnelles qui sont connectées à des outils, un des problèmes que personne parle, c'est la facture. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai l'impression que les trucs, ils envoient des emails à ma place. Mais au bout d'un moment, les tokens sont finis. Au bout d'un moment, je suis invité à acheter plus de tokens, je suis invité à passer sur un monde. Du coup, un autre abonnement plus supérieur. Du coup, oui, effectivement, ce sont des logiciels qui peuvent faire des choses. Mais est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce que j'ai besoin de payer des crédits pour envoyer un email? Est-ce que j'ai besoin de payer, passer sur un monde supérieur pour. Je donne un exemple très clair. Aujourd'hui, on fait grande pompe parce qu'on peut connecter ChatGPT à Photoshop. Et du coup, en fait, on peut piloter Photoshop depuis ChatGPT. Un langage naturel, ça veut dire que je veux dire un langage naturel, bouge l'image, coupe ci, coupe ça. Alors, on a l'impression que oui, c'est une révolution, on peut le faire. Mais enfin, on pouvait faire déjà ça avant. Avec
Oui,
Photoshop,
enfin,
avec.
Photoshop, quoi. Il faut rentrer dedans, quoi, géant.
Je suis d'accord, mais pour quelqu'un qui s'y connaît déjà en Photoshop, déjà,
Ah, oui.
avec la souris, on a un contrôle beaucoup plus fin de ce qu'on veut. On ne doit pas payer au crédit. Du coup, ce n'est pas à chaque interaction que je dois interroger un LLM pour qu'il les fasse. Et du coup, en fait, c'est vrai, ça paraît magique. Mais une fois que la magie elle est passée et une fois que l'effet waouh il est passé, bien la question, est-ce que j'ai besoin de ça? Et la réponse, c'est souvent non. Des fois, oui. Pour certains cas, certains mots, oui. Mais pour certains cas, la réponse est non. C'est l'exemple des Sora, des OpenAI. Sora, c'était un modèle, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de connaître et de tester, c'était un modèle des générations des vidéos à partir des textes. Du coup, ça, concrètement, ça veut dire quoi? Sora, comme ChatGPT peut faire des images, bah, ChatGPT pouvait faire des vidéos. J'ai dit bien pouvait, parce qu'ils ont arrêté ça. Et ils ont arrêté ça pour la simple raison qu'il n'y a pas de business model derrière. La génération d'une image, ça n'a rien à voir en consommation énergétique avec la consommation d'une génération d'une vidéo. Une vidéo de 3 secondes à 60 frames par seconde, c'est déjà 180 images qu'il faut générer. Du coup, ça n'a rien à voir. Et ça, autre qu'envoyer une petite vidéo rigolo à ses amis, la partager sur les réseaux sociaux, bah, les boîtes d'audiovisuel, elles ne sont pas encore vraiment ces besoins. Elles sont déjà les outils depuis des années pour manipuler des vidéos, pour éditer des vidéos, pour faire des choses. Et du coup, ils n'ont pas besoin de payer ça. Du coup, conclusion, OpenAI, bah, il ferme son service Sora. Et ça ne m'étonne pas. Il n'y a pas de business model derrière. Du coup, ce que je veux dire, c'est que dans le monde de l'IA, il y a beaucoup d'outils qui vont sortir. Il y a beaucoup d'outils qui vont encore sortir demain. Il y a encore des trucs hyper spectaculaires qu'on va voir dans les années à venir. Mais plein de ces outils-là, ce n'est pas parce qu'ils sont spectaculaires, ce n'est pas parce qu'il y a un effet wow qu'on en a besoin. Ce n'est pas parce qu'on peut faire toujours des magies qu'on en a vraiment besoin et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça.
Mais quand tu présentes Sora ferme, c'est vrai, mais VO existe encore. Et aujourd'hui, ce qui fait que ça pose problème, ce n'est pas tellement qu'il n'y ait pas de modèle économique, parce que l'IA, il y a beaucoup d'objets qui n'ont pas de modèle économique, c'est que l'IA n'est pas assez puissante pour faire un vrai modèle économique. Et tu as raison. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait fait ce calcul qui était assez sympa, c'est qu'il bon, faut payer des tokens, mais si on paye des tokens pour pouvoir, je crois que c'est avec VO qu'il avait fait, avec 300 euros de tokens, on pouvait faire un Marvel. Et un Marvel, ça coûte 300 millions d'euros. Donc il y a un vrai modèle
Alors,
économique derrière.
je ne suis absolument pas du tout d'accord avec cette étude. Il faudrait que je voie là. Mais je ne pense pas qu'on peut faire avec 300 euros. Et en fait, ça relève de l'illusion encore. C'est, on peut faire des trucs, on peut faire des choses. Maintenant, faire des choses de qualité et faire des choses qui vraiment me plaisent. Et surtout, la frontière, elle va bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça ressemblait à la science-fiction hier.
Ah oui,
On va
exactement.
faire ce qu'il y aura demain qui ressemble à la science-fiction, un jour, ce sera en réalité. Mais en tout cas, je te dis, c'est aujourd'hui, en 2026, les 20 avril 2026, 26, on n'a pas encore, dans la génération des vidéos, on n'a pas les outils qui sont. On ne peut pas, à partir d'un prompt, un texte, et juste de dire fais-moi un truc, et la capacité de générer un film. On peut générer des petites séquences vidéo, on peut générer des choses, mais on peut générer des vidéos, des avatars virtuels. Du coup, ça. Pour les entreprises, c'est peut-être intéressant dans les domaines de la formation, des solutions comme HeyGen, Synthesia, c'est une solution qui propose des avatars virtuels, c'est un type de vidéo. Ça, on peut faire. Et là, potentiellement, il y a un modèle économique. Maintenant, tout ce qui est film, industrie cinématographique et vraiment créativité, moi, que je sache, il n'y a pas un film qui a été fait. Alors, après, il faut décortiquer. Quand on dit c'est avec de l'IA, qu'est-ce que ça veut dire, c'est de l'IA? En fait, entre l'IA, j'ai fait un prompt, un texte et j'ai un truc. Et aujourd'hui, par exemple, je l'ai fait parce que j'ai fait des formations sur les vidéos. Mais aujourd'hui, la façon de faire des vidéos longues, je veux dire, longues, c'est 2-3 minutes. Hein, je ne parlais même pas des 2 heures. Des vidéos des 2-3 minutes, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire séquence par séquence de 3 secondes.
Exactement.
Imaginez, il faut faire il faut la générer. Et en plus, il faut faire un montage, il faut faire une chanson ou une musique qui va coller les tout. Il va falloir se poser les questions sur les personnages récurrents et sur
Sûr.
la cohérence des images des unes avec les autres. Et du coup, il y a un travail réellement créatif. Ce n'est pas en 2 secondes qu'on fait ça. Ce sont des journées et ce sont des journées de travail. Alors, c'est vrai, ça nous réduit, mais ce n'est pas en 2 secondes. Aujourd'hui, en 2026, on ne peut pas faire une vidéo de Marvel en 3 secondes, même si on paye 300 euros.
Exactement. Alors peut-être l'expert avait dit qu'il avait fait ça, bon, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire aussi la grosse découverte, c'est surtout qu'on sort de l'expertise. Si moi je suis un amateur, donc je suis étymologiquement parlant quelqu'un qui aime la chose, dans ces cas-là, je vais sur Suno, j'y connais rien en musique, je suis nul, hein, donc je préviens tout le monde, voilà, donc pas de souci, eh ben, je peux faire une musique. Un ministre de l'Éducation a fait une chanson qui était assez sympa. Donc il a rentré à l'intérieur. Il n'est pas forcément spécialiste de la musique, mais il fait, c'est-à-dire il y a une vraie démocratisation.
Mais alors pour moi, j'ai envie de les voir comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'effectivement,
Exactement.
je peux accéder à des trucs que je n'aurais pas. Moi, les gens, des fois, la question se pose, mais alors, Est-ce que ça a piqué le travail d'un musicien professionnel? Je dirais, mais est-ce que moi, pour générer une chanson, pour une formation à moi, pour un truc, pour la parler, j'aurais jamais eu non plus l'argent pour payer un. Vous
Oui,
voyez,
exactement.
j'aurais jamais eu l'argent. Je vais donner un exemple. Les SEO. Les SEO, c'est l'optimisation de ces sites web pour que Google et les autres nous connaissent. Ça, c'est un métier. Il y a toute une expertise derrière les SEO, les référencements naturels. Moi, il y a quelques années, avant ChatGPT, j'ai fait appel à un cabinet qui m'a dit, je t'ai fait tes articles et blogs pour que, voilà, il y ait une stratégie SEO et que tu sois référencé sur Google. Chaque page, ça va être 500 euros. Et je n'ai pas besoin d'une page, j'ai besoin des 1000 pages. Du coup, tout de suite, c'est un demi-million d'euros. Je n'ai pas un demi-million d'euros à payer. C'est impossible. Du coup, en fait, ce n'est pas que ça détruit les jobs, c'est que je n'aurais jamais eu l'argent pour payer ça. Maintenant, avec ChatGPT, avec les autres, je peux générer moi-même mes trucs. Du coup, en fait, ça, c'est en train de démocratiser quelque chose à laquelle j'aurais jamais eu accès. Pareil avec Suno. Tu me dis, tu fais une chanson. Oui, tu fais une chanson. Tu n'es pas forcément en train de piquer les jobs de quelqu'un parce que cette chanson, tu n'aurais jamais eu l'argent. En fait, si on a l'argent pour payer, c'est parce que c'est un cadre professionnel. Moi, je pense que tu l'as bien dit. Si je suis amateur, que je vais faire des expérimentations, que je vais montrer une chanson dans mon mariage pour rigoler avec mes amis, là, je peux la faire tout seul. J'ai pas. En tout cas, j'aurais jamais payé quelqu'un pour la faire. Et tu me donnes l'anecdote du ministre qui a fait ça. Est-ce que le ministre s'est transformé professionnellement? Il a changé de métier? Il est allé ouvrir une chaîne Spotify? Non.
Alors pour l'instant non, mais enfin je ne connais pas
Et je
son
ne
avenir
pense pas qu'il va
professionnel.
les faire. Toi, tu as fait une expérimentation sur Suno, tu as fait une chanson, tu étais content, ça t'a fait rêver. Est-ce que c'est pour autant que toi, tu as changé de métier et demandé dire, j'arrête avec mes podcasts, j'arrête mon métier et je vais me lancer à faire de la chanson? Alors, si tu veux le faire, bah, dans ces cas-là, il va falloir que toi, ce n'est pas qu'une expérimentation qui va faire les trucs. Et devenir producteur des musiques, c'est tout un métier. Il y a plein de choses. C'est plus que la simple production des pièces.
Oui, mais alors, ce qui est vrai, et quand tu regardes par exemple des gens comme, alors il y en a plein, mais ce qui me revient à l'esprit, c'est Laurie. Laurie, au départ, révolution du web, elle faisait des petites vidéos modestes, etc. Elle a lancé ses chansons. Les grandes majors se sont dit, elle faisait énormément de buzz, donc ils se sont dit, on va l'intégrer. Mais elle a démarré grâce, de façon très professionnelle, grâce au web. Et de la même façon, donc après, bien sûr, elle a été récupérée par le système qui est intelligent, et c'est intéressant. Mais de la même façon, des gens qui sont très éloignés de leur sphère peuvent se mettre sur la musique, sur la vidéo, sur plein de choses comme ça sera de plus en plus facile. Et donc, ça veut dire que finalement, il y a une vraie démocratisation, ce qui est assez génial. On peut faire plein de choses. Et il y a un
Je
vrai
pense.
modèle économique derrière qui est
Alors, je
différent.
pense que c'est très sympa pour les gens, pour que les gens puissent tester. C'est-à-dire que pour au moins que les gens puissent voir à quoi ça ressemble, pour qu'ils voient, qu'ils puissent. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un autre truc dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est ce qu'on appelle les vibe coding. Ça veut dire, pour ceux qui écoutent ce podcast, c'est la capacité à faire du code logiciel avec des agents conversationnels. Demandez à ChatGPT, si vous êtes là en train d'écouter ces podcasts, ouvrez ChatGPT et tapez sur ChatGPT, fais-moi une calculatrice web en HTML. Vous prenez les résultats de ça, vous les copiez dans un bloc de notes et vous renommez les fichiers, vous les index.html. Vous faites bien attention à renommer index.html. Vous double-cliquez sur les fichiers et vous allez avoir une calculatrice web fonctionnelle. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est l'un des exercices que j'ai fait dans ma formation. Ça veut dire que n'importe qui peut faire du code. Alors
Exactement.
maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes dans les commerces et votre métier, votre profession, ce que vous avez choisi comme professionnellement, c'est les commerces. Ça ne veut pas dire que vous allez changer tout d'un coup et démarrer en tant que développeur logiciel. Mais ça veut dire que vous avez accès à des outils qui autrefois vous semblaient potentiellement obscurs et que voilà, moi je connais rien au code et si je voulais faire une calculatrice web, la seule façon c'était bah, de payer un développeur web pour qu'il la fasse. Alors maintenant, vous pouvez les faire. Mais en fait, pour moi, comme je suis d'accord avec ce que tu dis, Stéphane, tous ces outils, ça démocratise l'entrée. Mais maintenant, si j'ai envie d'aller plus loin, bah, il va falloir, c'est pas quel outil qu'il va falloir. L'outil, je pense que ça permet d'ouvrir la porte. Ça permet, pour les gens curieux, pour les gens qui veulent tester, c'est magnifique. Mais ça, moi, je ne pense pas que c'est un challenge pour les gens qui sont dans les métiers. Je vais t'expliquer un truc. C'est pas, moi, je suis formateur en IA. Ça fait 8 ans que j'ai fait des formations. Tu peux demander à ChatGPT, fais-moi les programmes d'une formation en IA. Et il te les fait. Et du coup, tu te dis, ah, bah, je peux être formateur. Bah, non. Être formateur, c'est pas lire un PowerPoint devant des gens. Être formateur, c'est déjà trouver les clients. Du coup, et ça ne s'improvise pas. Du coup, il faut avoir une réputation, il faut avoir un réseau, Il faut arriver à convaincre les clients d'acheter tes formations. Une fois que c'est acheté, bah faire un point, ce qu'on appelle des cadrages pédagogiques. Du coup, comprendre si toi, ce que tu as envie de transmettre, c'est ça rapproche. Et tout ça, ChatGPT, il va, si tu poses la question, potentiellement qu'il peut te le dire, mais même le fait de savoir qu'il faut poser cette question, ça fait partie des compétences que les professionnels, il a et que l'amateur, il n'a pas. Du coup, si tu veux organiser une formation en IA pour tes amis, pour t'amuser, oui, ChatGPT peut te faire des PowerPoint à lire. Maintenant, ce n'est pas ça qui fait toi un formateur professionnel en IA. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que tu fais une recette de pain, que ChatGPT fait une recette de pain, que ça fait toi un boulanger.
Sauf si tu multiplies les pains.
Sauf si tu multiplies les pains.
Voilà, donc il y en a qui ça a bien marché. Mais c'est-à-dire, en fait, si je comprends bien ta démarche, bien sûr, tu défends les professionnels, mais peut-être que c'est, on prend le problème à l'envers. Finalement, cette curiosité, cet amateurisme, ça devrait être celle de tous les métiers.
Je suis d'accord. Et juste, enfin, ça, c'est mon marché. C'est ouvrir les yeux sur ce qui est possible de faire, ouvrir les chakras. Parce qu'en fait, les mondes de la tech et les mondes des ordinateurs, souvent, c'est un monde obscur pour certains. Je
Oui,
te
bien sûr.
parle d'un boulanger. Un boulanger, il s'est dit, moi, c'est la viande. Enfin, un boulanger, c'est moi, c'est les pains. Et moi, c'est les pains, c'est la pâtisserie. Mais moi, c'est ça. Et moi, les ordinateurs, la tech, c'est pas mon truc. Ben, aujourd'hui, avec l'IA générative, en fait, tu peux lui montrer qu'en fait, les ordinateurs, ça ne fait pas peur, et que tu peux toucher au système et que tu peux faire des trucs, et potentiellement que ça peut lui donner envie de connaître un peu plus, de savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière, d'automatiser les choses et tout ça. Ça ne fait pas ChatGPT, Claude, Paperclip, peu importe le logiciel, ça ne fait pas d'un boulanger un professionnel de l'IT. Mais maintenant,
Bien
ça
sûr.
peut lui permettre de tester les choses qu'un professionnel de l'IT peut faire pour qu'après, il se dise, bah, soit j'ai envie de faire et de faire des choses, soit je peux mieux communiquer avec un ingénieur et pour lui exprimer mes besoins. Et du coup, je trouve que tous ces outils-là sont vraiment géniaux pour ouvrir les yeux, ouvrir les chakras, mais ça ne fait pas de toi. Je répète l'analogie pour moi. Ce n'est pas parce que ChatGPT peut faire une recette des pains pour toi que ça fait de toi un boulanger.
Après, mais ça donne l'opportunité, si tu
Et
veux,
ça donne
une fois que tu...
l'opportunité de tester. La cuisine, ça me fait peur. J'ai jamais testé la cuisine, j'ai jamais su même par où commencer. Bah, ChatGPT et ses outils sont géniaux pour justement casser cette barrière et tester un tout petit peu.
Et quitte après à demander à ChatGPT de te monter un business model, de te créer une analyse de ta zone de chalandise et de devenir finalement, d'avoir le courage de te lancer, ce qui n'appartient pas à ChatGPT, mais ça veut dire qu'il peut t'aider, à t'accompagner.
Ouais, ça peut être un aide, mais un exercice que j'ai fait bête, Stéphane, dans mes formations. Je demande aux étudiants de dire, bon, allez, vous voulez vous remettre en forme, gagner en masse musculaire, perdre du poids, que les abdos soient bien visibles et tout ça. On va demander à Claude ou à ChatGPT, peu importe, un plan, du coup, des sports. Et du coup, il les fait. Ah, mais maintenant, on va mettre les préférences nutritionnelles. Qu'est-ce que vous aimez bien manger? Ah, bah, on va mettre aussi l'emploi du temps. On va mettre aussi si vous êtes paresseux le matin ou le soir. On va faire ci, on va faire ça. Et au bout des 5-10 minutes, les gens, en fait, à la fin des 10 minutes, ils sortent avec un plan hyper personnalisé. Ils ont l'impression que le travail, c'est fini, mais le travail n'a fait que commencer. Parce qu'ils sont juste un bout des mots. Ils sont juste des mots. Moi, ce que j'ai dit avec ChatGPT et avec l'IA générative, l'important, ce n'est pas les prompts. L'important, ce n'est même pas la réponse. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces résultats. Parce qu'un plan de nutrition et de sport sur les papiers, aussi optimisé qu'il soit, ça ne sert à rien. Si on veut perdre du poids, il faut s'élever les matins, il faut manger mieux et il faut exécuter les plans. Un plan sans exécution, ça ne fait à rien. Un business plan pour monter en boulangerie sur du papier ou sur du PowerPoint avec des jolies slides, ça ne sert à rien. Il
C'est le
faut l'exécuter.
problème du passage à l'acte.
Exactement.
Et comment est-ce qu'on fait passer à l'acte? C'est le rôle de l'entreprise de donner l'envie et de faire en sorte que ce ne soit pas chacun qui passe à l'acte, mais qu'on crée un passage à l'acte collectif.
Je dirais qu'elle sait pas les rôles de l'entreprise. Une entreprise, pour moi, c'est, elle est là. En fait, c'est les rôles de l'individu. En fait, quand on passe à l'acte, c'est parce qu'on a envie de faire quelque chose. Et cette envie, il faut que ça vienne de moi. Si moi, j'ai envie de faire quelque chose, il faut que ça vienne de moi. C'est l'entreprise. Moi, je suis plus vraiment dans la personne. Ces outils-là, ils peuvent permettre aux gens d'aller plus loin dans ce qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent. Ils peuvent leur donner des super pouvoirs. Mais il y a toujours une responsabilité, il y a toujours une action. C'est pas des mots. C'est pas, c'est encore une fois, on recette des pains, un business plan, ça ne sert à rien si c'est tout seul. Un business plan, il va falloir aller les présenter à quelqu'un, il va falloir aller faire des levées de fonds, il va falloir les défendre vis-à-vis des gens, il va falloir que moi-même, je m'élève les matins pour aller tester mon idée, faire du pain et tout ça. Des IA, elles ne font pas. Du coup, en fait, pour moi, encore une fois, je le répète, l'important dans l'IA générative, dans cet agent conversationnel, ce n'est pas les prompts, ce n'est pas non plus la réponse, c'est qu'est-ce que j'ai fait de cette réponse.
Et tu penses que ton analyse est plutôt une analyse individualiste? Moi, je crois que c'est collectif pour ma part, mais après, c'est de la croyance et chacun a raison. C'est ça qui est bien. Je crois que c'est à l'entreprise de donner ce qu'on appelle l'érotisation, le désir social, et que ce ne sont pas les individus qu'ils portent, sauf quelques-uns qui sont très rares. Mais ça veut dire que c'est au collectif de s'organiser de façon à ce que chacun, une fois qu'il ait toutes ses opportunités, puisse se dire c'est génial et je passe à l'acte. Parce que je le passe grâce au collectif.
Je pense que ni toi ni moi, on a un monopole sur la raison. Moi, je viens de Colombie. Et en Colombie, on a une mentalité un peu plus proche du système capitaliste américain dans laquelle je t'ai expliqué. En fait, on n'attend pas grand-chose du gouvernement, on n'attend pas grand-chose. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes en société qui se disent, on ne m'a pas formé en anglais, on ne m'a pas formé en anglais, on ne m'a pas donné l'opportunité, on ne m'a pas donné l'autorisation. J'ai envie de dire, peut-être c'est ma mentalité, mais si tu as envie de te former à l'anglais, forme-toi à l'anglais. T'attends pas que ton patron te donne la permission de vivre ta vie comme tu as envie de la vivre. Alors, si ta boîte, elle ne veut pas payer, bah, c'est dommage. Mais si tu as envie de faire un truc, t'attends pas que ton patron te laisse la permission. Alors maintenant, ça, c'est ma façon de voir la vie parce que je pense à la responsabilité de chacun. Mais si toi, tout le monde...
Et l'IA permet à l'individu d'avoir un domaine des possibles qui est extraordinaire. Si je veux apprendre l'anglais, si je veux apprendre une autre langue, l'IA est un formateur extraordinaire, gratuitement,
Tout
même
à fait, oui.
PLM, hein. Et donc ça veut dire que. Mais il y a aussi une autre dimension qui dépend aussi des pays. Et c'est vrai qu'on est plus communautaire en France. Dans le sens où on se dit, pas forcément j'attends que le sommet me le dise, parce qu'on est dans une société de la défiance, mais j'attends que mes pairs le disent, la pédagogie. Et quand je vois qu'avec deux, trois amis, on trouve ça chouette, on s'excite quelque part, le passage à l'acte est plus facile parce que je ne suis pas seul à le porter. Et cette culture du collectif, qui est plus latin, qu'on retrouve en France, finalement, est assez intéressante parce qu'elle est pas en opposition avec le numérique, loin s'en faut, hein. Les communautés apprenantes, c'est Howard Rheingold qui a créé ça aux États-Unis. Ben c'est exactement la même idée. Hein. Il est
Tout à fait.
américain. Et donc, mais ces deux approches, il y a une partie collective, une partie individuelle, bien sûr. Les frontières sont jamais très très claires parce que c'est toujours un peu compliqué. Mais dans les entreprises, quand on revient là-dedans, ben c'est de la responsabilité de l'entreprise de dire, ben à la fin, moi je veux que les gens soient formés à l'IA. Je veux que tous mes vendeurs sachent utiliser l'IA. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, j'ai la responsabilité sociale de les former. Et c'est le travail du responsable de formation.
Oui, tout à fait. Et puis, heureusement qu'on l'a, parce qu'aussi en France, on a la chance qu'il y a les budgets des formations, qu'il y a les SOPCO, qu'il y a les CPF, qu'en fait, les gouvernements, ils veulent qu'on investisse nous-mêmes sur nos formations. D'où sort l'argent des SOPCO, d'où sort l'argent du CPF? Ça sort de nos contributions individuelles et d'entreprises. Mais du coup, en fait, les gouvernements, ils veulent qu'on réinjecte ça dans la formation. Pour la France, la formation, c'est important. Mais je veux dire, c'est quasiment une exception. C'est quasiment
Oui,
les seuls
absolument.
pays où il y a ce type de modèle, en fait, des sociétés comme des centres de formation comme Cegos, comme Orsis, comme ces gros centres de formation qui forment une entreprise, c'est quasiment, je veux dire, c'est une particularité française. Aux États-Unis, il n'y a pas ça. Tu veux te former, bah, sors de ta poche de l'argent et tu te formes toi-même. Du coup, la soit c'est quelque chose d'hyper stratégique, mais il n'y a pas des fonds de formation, il n'y a pas des budgets de formation, il n'y a pas non plus une obligation de l'État. Après, moi, je trouve que ça, pour les coups, on a vraiment beaucoup de chances de vivre en France où la formation, elle est prise au sérieux et qu'en plus, elle est encadrée. Aujourd'hui, moi, mon organisme, on a la certification Calliope qui oblige les organismes de formation à faire des formations de qualité, être transparent dans ce qu'on enseigne, à être transparent dans ce qu'on communique. Et là, les Calliope, c'est quelque chose qui oblige quand même à avoir une certaine transparence, une certaine
Alors,
traçabilité de ce qu'on fait.
là où tu as raison, c'est que les États-Unis, j'ai accompagné l'équipe de LinkedIn France, elle ne comprenait pas comment marchait le marché français de la formation. Elle trouvait que c'était absurde parce qu'ils disaient, bon, les gens n'ont qu'à se former ou on n'a qu'à les former si c'est… Voilà, mais plutôt sur un modèle anglo-saxon. Et donc, ils ne comprenaient pas et on sentait que c'était un peu de la bureaucratie, un peu une mafia en disant, mais pourquoi est-ce qu'il faut forcément passer par toutes ces étapes, deux modèles qui se confrontent. Puisqu'on avance sur l'émission, si on est responsable de formation dans une entreprise, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour se dire, il faut passer le cap de l'IA, Comment ils s'y prennent? Ils sont nuls en IA. Par quoi ils commencent?
Alors, j'ai envie de dire déjà, l'IA, ce n'est pas une question de est-ce qu'il faut se former ou pas. C'est-à-dire que l'IA, c'est un ensemble d'outils qui sont déjà là et qui vont être de plus en plus là. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'électricité. En fait, on peut vivre dans sa caverne et se dire, je n'utilise pas l'électricité, je n'utilise pas Internet, je n'utilise pas les téléphones mobiles parce que je n'ai pas envie. Alors oui, mais on se coupe de la société. Petit
Bien
à
sûr.
petit, il y a une fracture numérique et une fracture IA entre les gens qui vont, les gens qui vont mal et les gens qui vont de façon avisée, de façon objective et en gardant leur esprit critique. Donc, pour moi, conseil que je donne aux organismes, aux formateurs qui écoutent ces podcasts, la
Aux
première chose,
responsables de formation, c'est ceux qui sont décisionnaires, qui font tout le process.
premier conseil, l'IA, ce n'est pas que ChatGPT, ce n'est pas que Claude et ce n'est pas que ses agents. L'IA, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que ChatGPT, ses logiciels, ce sont des logiciels assez récents, ça, il y a 2-3 ans. Effectivement, c'est en train de bouger. Et de ça, il y a des nouvelles innovations comme les agents, comme les outils, comme. Du coup, il y a pas mal de choses autour de l'IA générative, mais l'IA, elle n'est pas née aujourd'hui. L'IA, elle est bien plus qu'avant. Les IA, c'est les automatisations. Les IA, c'est les
Mais
prédictifs.
alors, comment tu fais concrètement? Là, c'est bien, puisque tu l'as déjà dit, tu te répètes. Donc là, c'est vrai. Mais comment tu fais? Tu fais une grosse conférence pour expliquer? Tu fais quoi?
Alors, ça dépend des formats, ça dépend de chaque entreprise. Nous, mon organisme de formation, comment on s'y prend? La première question que je pose aux gens, c'est combien de gens vous pouvez réunir, combien de temps? Est-ce qu'on peut réunir, mobiliser? Est-ce que vous voulez mobiliser plusieurs personnes en même temps et autour d'un événement ludique, du coup, quelque chose? Et du coup, là, on
Alors,
fait, oui, effectivement, une
ouais,
conférence
donc
avec une
tu laisses la
manipulation.
main aux responsables de formation.
Non, je leur propose des choses, je suis force des propositions,
C'est-à-dire,
on fait.
au départ, pour toi qui as l'habitude des transformations, le problème de l'IA, c'est qu'on va tous y aller. Tu as raison. C'est comme l'électricité, c'est absurde. Donc, ça veut dire qu'on va tous y aller. La vraie question, c'est comment on y va? Et donc, est-ce qu'on lance un grand plan IA, ou dans ces cas-là, on fait une conférence d'entrée, puis on fait des formations derrière, une école de l'IA, etc. Enfin, tout est bon. Et est-ce qu'on lance par ça ou est-ce qu'on commence par exemple par le fait de dire on crée des groupes de pratique, des petits ateliers où tout le monde pratique sur le quotidien? Est-ce qu'on commence par le haut ou par le bas ou les deux?
Je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas une bonne réponse. En fait, ça dépend de chaque entreprise. Il y a des entreprises, toi, si je t'ai dit, si tu es responsable des formations du groupe Total, enfin un CAC 40 avec 40 000 employés, c'est pas les mêmes. C'est peut-être plus facile pour un responsable des formations de commencer petit parce qu'il ne va jamais avoir les budgets, les autorisations de lancer un truc en échelle des 40 000 personnes. Maintenant, si on est une entreprise de 20 personnes, bah, je trouverais ça égoïste de se dire on va former les 4 de Codir et les restes, on les oublie. On est 20 personnes, on va former tout le monde en même temps. Du coup, en fait, c'est la différence entre faire une séance
D'accord.
ou deux séances. Et du coup, en fait, moi, je pense qu'il faut, tout le monde doit se former à l'IA. Par contre, un des problèmes que tu vois, c'est que l'IA, aujourd'hui, on pense, on s'est formé, on a fait une formation. Voilà, c'est fait. On s'est formé à l'IA. Moi, je pense
Mais
que l'IA.
avant d'aller dans la suite, qui est importante aussi, c'est le fait de dire, est-ce que tu ne penses pas, comme certains le proposent, le fait de dire qu'au contraire, il faut d'abord former les cadres seuls, de façon à ce qu'ils soient capables d'être autonomes et être capable d'être le pilote de la transformation, et après on forme les équipes. Toi, tu dis on les met tous ensemble?
Alors, il y a encore une fois, ça dépend des. En technique, on fait de ce qu'on appelle la conduite du changement. Il y a différentes façons de s'y prendre. Une façon, c'est on va clusteriser les gens par personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus. Je ne vais pas dire cadre, parce que ce n'est pas parce qu'on est cadre qu'on est avant-garde et qu'on a envie de se lancer dans la tech. Moi, je pense que quand on fait la conduite du changement, on fait plus une clusterisation des gens en profil. Il y a les gens qui sont des early adopters, qui ont trop envie d'aider les soins. Et du coup, effectivement, ce sont des ambassadeurs, ce sont des gens qui vont tester, qui vont aller, et ça va être servir pour ça. Et il y a des gens qui sont plus réfractaires, voire carrément à l'opposé et qui ne veulent pas du tout entendre. Et du coup, avec ces gens-là, on ne va pas forcément faire la même méthodologie. Ces gens-là, il va falloir les écouter. Ce qu'on fait en conduite des changements, c'est pour vraiment les gens qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas entendre parler d'IA parce que l'IA, ça va piquer les jobs, ça va détruire la planète. J'ai vu un documentaire qui dit que l'IA,
Bien
elle
sûr.
détruit tout. Dans ces gens-là, il faut pas, même pas, il faut les écouter. Il ne faut même pas
Bien
penser
sûr.
pour dire, vous allez rentrer dans une formation, parce que pour qu'une formation soit réussie, il faut déjà que la personne ait envie de participer. Si on force une personne à participer à une formation, c'est une perte d'argent. Du coup, ces gens-là, il faut passer par les écouter. Tout simplement les écouter. La plupart de ces craintes, il y a des peurs, il y a des choses personnelles, il y a peut-être des anecdotes, des personnes dans leur entourage qui se sont fait voler les mots de passe. Et du coup, en fait, il faut penser par écouter. Et du coup, en fait, effectivement, on a des profils. Je dirais encore une fois, je dirais pas cadre ou pas cadre, je dirais plutôt technophile, des gens qui veulent aller dans l'IA, des gens qui veulent vraiment pas du tout. Et il faut les traiter de façon un peu différente. Et, mais par contre, je suis convaincu qu'il faut
Donc
former.
si je reprends ta méthode, elle n'est pas hiérarchique. Et dans ces cas-là, tu prends les gens qui sont les plus early adopteurs, ceux qui ont l'envie. Tu travailles avec eux. Ça sert un peu d'exemple pour les autres. Et après, comment tu fais basculer le reste entre
Bah,
ceux qui sont...
il faut pareil avec des choses, mais il faut y aller petit à petit. Il faut passer par les écouter. Il faut, en fait, souvent, on ne peut pas imposer une technologie. On ne peut pas imposer. C'est la meilleure façon de foirer une transformation technologique dans nos entreprises. C'est-à-dire, à partir de demain, tout le monde utilise cette CRM. À partir de demain, tout le monde utilise cet outil. Parce qu'en fait, les gens, ils ne sont jamais demandé ça. Ils ne veulent pas. Et du coup, en fait, il y a pas pire à faire que. Moi, je vois les entreprises qui s'empêchent, ils veulent faire une charia. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on a un groupe de travail d'un groupe élite en interne qui vont réfléchir à la charte. On va faire une charte et voilà, on l'a fait, on l'a publié. C'est sur un intranet en anglais, personne n'y a accès, personne s'intéresse, mais on a fait notre charia. Ça ne sert à rien, ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est former aux gens, c'est leur proposer des formations en fonction de leur niveau. Et encore une fois, il y a plein de formations différentes sur les IA conversationnel, sur les automatisations, sur les agents. Il y a un truc très bête, Stéphane, mais moi, je les vois, c'est hyper important en formation. Je fais formation avec les ministres, avec un ministère, et moi, je t'ai dit, un des problèmes les plus importants, c'est la création d'un compte sur une plateforme cloud. C'est bête, ça peut te paraître très bête à toi qui es technophile, mais t'imagines pas les temps que je passe avec ça, parce que les gens, ils ont peur. Ils se disent, on va me piquer mes jobs, on va me piquer mes données, j'ai peur de cliquer sur les cookies, j'ai peur voilà, d'utiliser mon compte parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et je pense qu'on ne peut pas se moquer de ces personnes-là, on ne peut pas
Bien sûr.
minimiser leurs craintes, il faut plutôt les écouter, leur proposer des alternatives. Alors, dans mes formations, une des alternatives qu'on a, c'est leur dire, OK, c'est légitime ou pas, on ne va pas rentrer à débattre ça, mais connaissiez-vous les emails temporaires? Qu'est-ce qu'un email temporaire? Un email temporaire, c'est un email jetable qu'on peut utiliser une fois pour recevoir un code, et comme ça, on se crée, on teste un truc, et voilà, il n'y a pas votre nom, il n'y a pas votre prénom, il n'y a pas votre email. Et les gens, quand on leur montrait ça, du coup, ça descend. Et du
Ça les
coup, en fait, on est
rassure.
en train de dire c'est
Alors,
légitime, c'est pas légitime la question de se faire voler vos données. Là, il n'y a même pas question. On est là pour tester. Est-ce que vous êtes d'accord à tester avec un compte qui n'a pas votre nom, qui n'a pas. Et là, la plupart des gens ils disent oui. Et la plupart des gens ne connaissent pas. Et ça, voilà, ça casse des barrières et ça permet de commencer.
comment tu fais pour... Il y a beaucoup de personnes qui disent, l'IA, ça avance tellement vite que j'attends que ce soit un peu plus mature pour me lancer. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on se forme une fois? Et puis après, comme ça bouge tellement, il faut se reformer tout le temps, quoi.
Il faut se réformer tous les temps. Mais maintenant, il y a des choses que si on comprend une fois, ça permet de voir en perspective les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a tous les jours, il y a un nouvel outil, un nouvel outil, un nouvel outil. Et du coup, les gens se sont angoissés parce que par où est-ce que je commence? Je n'ai même pas eu le temps de me former à l'outil qui est sorti la semaine dernière, qui est déjà devenu obsolète parce qu'il y a un autre truc. Alors, c'est vrai que ça va toujours exister. C'est comme ça. C'est la technologie, elle est qu'exponentielle. Alors maintenant, il y a pas mal, quand même pas mal de choses dans la technologie. Il y a quand même des socles communs des technologies qui font qu'il y a des choses qui fonctionnent. C'est-à-dire, autour des agents conversationnels, il y a ce qu'on appelle les modèles de langage. Et du coup, ça, c'était une avancée majeure. Moi, je l'enseigne en formation. Qu'est-ce qu'un modèle de langage? Comment ça fonctionne? Comment ça a été entraîné? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert?
Oui,
Et du
mais
coup,
une fois qu'on travaille avec toi, on est obligé de travailler tout le temps avec toi. Donc, si tu me rends ta vie pour toi.
non, c'est ce que je voudrais. Moi, j'aimerais
Voilà,
bien
c'est
ça
un
devenir.
vieux rêve.
Mais pas forcément, tu sais, moi, en tant que formateur, une des choses que j'ai envie de faire et une des choses que c'est vraiment mon credo, c'est qu'en fait, les formateurs, il faut qu'ils deviennent pas indispensables, mais au contraire, qu'ils deviennent, voilà, une pièce clé qui ouvre les portes, qui donne envie et que finalement, en fait, les formateurs, il n'est pas là pour qu'on dépende de lui. Il est formateur, il est là pour donner les outils pour que les gens eux-mêmes puissent continuer à s'auto-former. Nous, on est un peu comme, voilà, des coachs pour aider les gens. Dans des moments, effectivement, on peut être aussi force des propositions pour remettre à niveau des choses. Mais si on est bon prof, et ça c'est aussi en anglais, ça c'est aussi en français. La preuve, moi je me suis formé au français quand j'étais en Colombie il y a une vingtaine d'années. Et je ne parlais pas un mot de français. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de passer par mon prof de français d'avant pour faire ça. Mais si je n'avais pas eu un bon prof de français, j'aurais arrêté au début. Tu vois, du coup, pour moi, le rôle de l'enseignant, ce n'est pas de devenir indispensable. Pour moi, ça, c'est un mauvais prof. Un prof On n'arrive pas à se détacher de lui, ce n'est pas un bon prof. Un prof, son rôle, c'est de donner envie, c'est vraiment de casser les barrières et c'est surtout de donner ces petits coups de pouce comme font les oiseaux. Les oiseaux, ils poussent leurs poussins à s'envoler, à prendre l'envol. Et moi, je vois mon rôle un peu comme ça. J'aimerais, en tant que businessman, devenir indispensable et qu'à chaque fois, les gens se forment avec moi. Mais maintenant, en tant que les pédagogues derrière moi, ils disent non, il faut que tu formes à devenir indépendant. Et ça fait aussi partie de l'enseignement.
Exactement. Si tu avais un dernier mot à dire pour tous ceux qui craignent un peu, parce qu'il y a beaucoup de peurs légitimes, attention, sur l'IA, les LLM dont on parle, mais aussi de toutes les évolutions qui font, on parle de l'IA générale qui arrive, donc on parle de l'intelligence qui sera gratuite, ce que dit Laurent Alexandre à la commission parlementaire. Dans ces cas-là, bah, les gens se disent, et moi dans tout ça, comment je m'y retrouve? Si tu avais un
Alors,
mot à leur dire, tu leur dis quoi?
moi je leur dirais, l'IA va pas voler votre travail. Mais quelqu'un qui parle IA mieux que vous, cette personne, elle va voler votre travail. C'est pas l'intelligence artificielle qui un jour va se réveiller et va se dire, j'ai envie d'enregistrer un podcast d'IA comme toi et moi, on
Ça
est en train de.
m'arrange.
Bien sûr, mais c'est pas l'IA qui va avoir cette volonté de le faire. C'est un humain derrière qui a envie de lancer un business concurrent au tien et qui a envie de lancer un podcast derrière. Et qui va les faire avec des outils, des automatisations, des façons plus optimales que ce que toi tu es en train de faire. Et cette personne-là, elle est dangereuse. Parce que cette personne-là, elle fait ton job, mais elle peut potentiellement les faire peut-être mieux que toi ou pas. Mais toi, pour moi, encore une fois, les mots à finir, c'est l'IA va pas voler votre job. Quelqu'un qui parle l'IA mieux que vous, cette personne le fera. Et pour moi, parler IA, c'est quoi? Bah, c'est connaître les outils, savoir les juger, les utiliser, quand, mais aussi comment ça fonctionne. Aussi, qu'il ne faut pas commencer par un outil, c'est une mauvaise question. Les gens se disent, il y a un outil, qu'est-ce que j'ai fait avec l'outil? Mais on va pas, on rentre pas chez Brikorama à dire, qu'est-ce que j'ai fait avec ces marteaux? Je viens chez Brikorama, Monsieur Bricolage, parce que je veux un outil spécifique et je l'achète. C'est pas l'inverse. C'est pas j'achète un marteau pour après voir qu'est-ce que j'ai envie de faire avec les marteaux. Et avec ces outils, il faut aussi passer un peu de l'effet waouh, de waouh, ça fait des trucs géniaux, à est-ce que j'en ai besoin ou
Et quel est
pas?
mon projet? Et quel est mon projet?
Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et quand les gens ils comprennent ça, ils deviennent un peu plus calmes, un peu moins. Voilà, on s'excite un peu moins et ça, c'est. On se calme un tout petit peu.
Et on rentre dans le concret. Bravo. Camilo Rodriguez, bravo. On arrive à la fin. Ceux qui t'aiment bien et qui veulent te joindre, comment est-ce qu'on peut te contacter?
Alors, c'est très simple. Tu vas sur les sites web MLab, M comme machine, learning, lab comme laboratoire, point AI. AI de Artificial Intelligence, mlab.ai. Et voilà, ça c'est mon site web. Et là, il y a toute notre philosophie de parler IA. Tu peux aussi chercher parleria.com, ça redirige vers notre site web. Et en fait, notre philosophie d'enseignement, qu'il faut apprendre à parler IA, pas seulement les outils, pas seulement apprendre, mais parler IA. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui veut me contacter, là on a un formulaire de contact. Et là, c'est absolument avec
Et
plaisir que l'on
ceux qui utilisent plus LinkedIn, tu réponds beaucoup ou
Je
pas
suis aussi
trop?
sur LinkedIn. Oui, je réponds sur LinkedIn.
Okay.
Camilo Rodriguez. Camilo avec un L, il faut le dire, parce qu'en France, on
Oui.
m'a mis deux L dans mon prénom. Camilo,
Ah,
C-A-M-I-L-O.
d'accord.
Rodriguez avec un C à la
De
fin.
toute façon, dans les notes de l'émission, ça sera marqué.
Ça marche. D'origine colombienne, pour ceux qui se demandent, je l'ai déjà dit, mais on me demande toujours mon petit accent d'où ça vient. Du coup, ça vient de la Colombie.
Exactement. Ça nous fait voyager. Merci beaucoup, Camilo
Merci
Rodriguez.
Stéphane, à toi.
Merci à tous, à très bientôt, au revoir.